nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il est amusant de constater qu'un état très naturel, ainsi venons-nous au monde, ainsi prenons-nous notre douche, ainsi, etc., etc., qu'un état très naturel, donc, comme la nudité, peut être sujet d'études, de commentaires, d'interrogations. Attention, il y a le nu et il y a la nudité. Le nu, c'est la représentation artistique de la nudité qui sert de modèle. Mais en fait, l'histoire de la nudité est une histoire de l'œil, du regard. Et depuis l'époque de la première diffusion de cette émission sur France Culture, 29 septembre 1980, le regard sur la nudité a sans doute aussi un peu changé, comme vous ne manquerez pas de vous en apercevoir ou de l'entendre. Car en l'occurrence, à la radio, la nudité est avant tout une histoire d'ouïe.
Bonsoir.
Choisi, sublime, solitaire, profonde, oblique, matinale, fraîche, nacrée, ébouriffée, ravivée, première, régnante, coquette, vive, passionnée. Rose, bleuissante, jolie, mignonne, délurée, naturelle, couchée, debout, étreinte, ouverte, rassemblée, rayonnante, désaccordée. Gueuse, rieuse, ensorceleuse, étincelante, ressemblante, sourde, secrète, souterraine, aveugle, rude, désastreuse, boisée, herbeuse, ensanglantée, sauvage, obscure, balbutiante. Ensoleillée, illuminée, fleurie, confuse, caressante, instruite, discrète, ingénieuse, fidèle, facile, étoilée, charnue, opaque, palpitante, inaltérable, contractée, pavée, construite, vitrifiée, globale, haute, populaire, barrée, gardée, contradictoire. Égale, lourde, métallique, impitoyable, impardonnable. prise, dénouée, rompue, noire, humiliée, éclaboussée. Sommes-nous deux ou suis-je solitaire?
On connaît le comte d'Andersen, les habits neufs du grand-duc. Un enfant proclame l'imposture des tailleurs qui ont fait au seigneur des vêtements invisibles. Ainsi, dans une interprétation au premier degré, on peut dire que la vérité sort de la bouche des enfants et que le roi est nu. Mais je me demande si une proclamation beaucoup plus grave et la seule possible ne serait pas « la reine est nue ». En d'autres termes, est-ce que la nudité de l'homme est comparable à celle de la femme ?
En principe, oui. Si on étudie d'ailleurs l'histoire de l'art, on constate que la représentation du nu masculin est au moins aussi fréquente que celle du nu féminin. Il n'y a pas lieu de faire, en principe, je dis, il n'y a pas lieu a priori de faire une distinction. Je crois même qu'en Grèce en particulier, la représentation de la nudité masculine au siècle classique était plus importante que celle de la nudité féminine. C'est plutôt depuis un siècle ou deux, dans la tradition occidentale, que nous avons fixé notre attention sur la nudité féminine. Alors si on oppose la nudité comme concept naturel au nu, qui est un concept de l'art, il y a incontestablement une prédominance pour nous, dans la photographie en particulier aujourd'hui, donc une inflation de la nudité féminine, mais je crois qu'en principe, si on fait un peu de sociologie, il n'y a pas lieu de faire de distinction. C'est nous qui la faisons.
Je saurai dessiner comme mes mains épousent la forme de mon corps. Je saurai dessiner comme le jour pénètre au fin fond de mes yeux. Et ma chaleur fera s'étendre les couleurs sur le lit de mes nuits, sur la nature nue où je tiens une place plus grande que mes songes, où je suis seule et nue, où je suis l'absolu, l'être définitif. La première femme apparue, le premier homme rencontré, sortant du jeu qui les mêlait comme doigts d'une même main. La première femme étrangère et le premier homme inconnu. La première douleur exquise et le premier plaisir panique. Et la première différence entre des êtres fraternels. La première ressemblance entre des êtres différents. Paul Éluard, poésie ininterrompue.
Nous, en Occident, il se trouve qu'aujourd'hui, spontanément, nous pensons la nudité au féminin, indépendamment du fait que le mot est féminin.
J'aurais voulu être femme pour la beauté, pour pouvoir m'admirer moi-même, me mettre nue, laisser retomber ma chevelure sur mes talons et me mirer dans les ruisseaux.
Mais l'homme serait-il, même l'homme déshabillé, représenté nu, serait-il dit nu ?
Il est très rare qu'on voit des hommes nus. Très très rare. Même dans la photographie, si on regarde les magazines, bon, la plupart des magazines sont destinés aux hommes et par conséquent ne représentent que des nus féminins. Il en existe quelques-uns donc à l'usage des femmes. Mais ils sont très minoritaires. Je crois même que les femmes éprouvent une certaine répugnance à acheter ce genre de publication. Au cinéma, il est très très rare que l'on voit un homme nu. Je crois même que la censure joue davantage en ce domaine. Et c'est, je pense, lié au phénomène de l'érection. De même que dans les camps de nudistes, il y a toujours un problème de ce côté. Lorsqu'on lit les revues, n'est-ce pas, qui sont publiées par les naturistes, on constate qu'il y a très peu d'hommes nus. Je crois que c'est lié essentiellement au problème de l'érection.
Donc la nudité féminine serait plus montrable, si on peut dire, et en même temps beaucoup plus cachée, parce que ce phénomène-là n'est pas visible.
Il y a d'abord le fait donc que sa nudité est figée, je veux dire par là qu'il n'y a pas ce problème donc, auquel je faisais allusion, problème d'érection. Pendant très longtemps, il y a eu une sorte de censure qui s'exerçait sur la toison pubienne. Hein. Pendant des siècles, en peinture en particulier, on ne représentait pas la toison. Et même jusqu'à une date récente, vous savez, dans les publications dites érotiques ou pornographiques, je me souviens, il y a encore une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, les photos de nus féminins étaient en quelque sorte gommées. Hein. Il y avait sans doute parce qu'on considérait que le poil pubien est un signe de bestialité, n'est-ce pas, et que la sang... Alors aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a une sorte d'inflation. Si vous regardez, n'est-ce pas, Playboy, lui ou d'autres revues de cette farine, vous constatez que c'est au contraire. Il y a une survalorisation de la vulve et en particulier de la toison. Ce qui est très frappant, enfin, c'est une sorte de fétichisation inversée.
Je mourrai si je ne sais comment elle se couche, nue ou vêtue.
Alors, est-ce que la nudité, justement, rejoindrait ce qu'on peut appeler le naturel ?
Je crois qu'elle n'est jamais naturelle. L'idée d'une nudité naturelle, c'est un cas limite. Étant donné que, à toutes les époques, la nudité est perçue à travers un certain nombre de modèles qui sont justement les nus. Le nu étant la représentation artistique de la nudité, il y a pour chaque société et à chaque époque une sorte de modèle ou de pattern, n'est-ce pas, qui s'installe. Il n'est pas toujours facile d'ailleurs de le déterminer avec rigueur. On peut le faire dans les sociétés archaïques, on peut le faire pour les périodes relativement anciennes où les modes sont relativement stables. Aujourd'hui, il est très difficile de déterminer quel est le canon de la nudité. Mais c'est toujours à travers cette représentation artistique que nous voyons la nature. Bon, il en va de la nudité comme de la sexualité, qui est toujours vécue à travers un certain nombre de normes. Par conséquent, l'idée d'une nudité naturelle me paraît une chimère. Il n'y a rien de plus intellectuel à la limite que le naturisme. Enfin, ce qu'on appelle le naturisme, ça n'est pas naturaliste. La meilleure preuve, c'est que ceux qui pratiquent le naturisme, ils ont beau se référer à une soi-disant nature, cette nature est une invention culturelle. C'est une mode culturelle.
Si devant la femme nue, on ne découvre pas dans son être le plus profond la même émotion terrifiante qu'on ressent devant la révélation du mystère cosmique, il n'y a pas rite, il n'y a qu'un acte profane. Lost on a painted sky where the clouds are hung for the poet's eye. May find him if you may find him. There on a distant shore, by the wings of dreams, through an open door,
may know him. If you may be as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way.
Alors, s'il y a des modes de la nudité, où se loge-t-elle la nudité ? Enfin, en telle partie du corps ou en tel instant ?
Il y a d'abord évidemment la nudité globale. Le visage a toujours été nu, n'est-ce pas ? Mais précisément, il est maquillé. Il n'y a pas de société qui laisse le visage à l'état nu. Dans les sociétés de ceux qu'on appelle les naturels, justement, on parle des naturels, c'est archaïque. Bon, ils ne sont pas naturels. On sait par exemple qu'en Polynésie, un corps nu est jugé stupide, n'est-ce pas, et immoral. C'est pourquoi on tatoue. Ben, les tatouages généralisés, ils se tatouent d'ailleurs toutes les parties du corps, et même l'intérieur du corps, l'intérieur de la bouche. Il n'y a pas une seule partie du corps qui doit rester. Ils trouvent ça immonde. Ils trouvent ça. L'homme nu est stupide. Lévi-Strauss a beaucoup insisté là-dessus, n'est-ce pas, lorsqu'il a étudié les cas du VO, mais Gardiner aussi. Lorsqu'il a étudié les Polynésiens, il a été très frappé de ce désir éprouvé par ces soi-disant naturels qui ne portent aucun vêtement ou très peu de vêtements, ce désir de recouvrir et même d'incarner dans la nudité des signes artistiques. Ce qui fait qu'il n'y a pas de nudité.
Oui, vous parlez de l'homme nu qui est stupide, mais n'est-ce pas aussi un moyen de défense ? L'homme nu est vulnérable, est fragile, est offert.
Oui. Dans ce cas, on ne peut pas dire que les tatouages ou les ornements ou les scarifications fonctionnent comme des protections. Ce ne sont même pas des vêtements, hein, puisque les atteintes du froid ou du soleil sont identiques. Mais tout se passe comme si la nudité leur apparaissait comme un signe d'animalité. Et par conséquent, ils ont trouvé cette formule, c'est ce que Pauline Cochrys appelait une sorte de jeune parure incarnée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les vêtements, on n'en change pas, on les a une fois pour toutes. Il se trouve qu'à partir d'un certain âge, les petites filles et les petits garçons sont tatoués, avec d'ailleurs des normes très précises, selon les âges, selon les périodes. Et ces tatouages changent de couleur, d'ailleurs, parce qu'ils virent au vert, n'est-ce pas ? Ou ils virent au bleu. Et il n'est pas rare de découvrir des vieillards qui sont intégralement verts.
Alors si la nudité est liée à la conscience et aussi à un phénomène culturel, est-ce que cela reviendra à dire que l'histoire de la nudité est une histoire de l'œil ?
Oui, je crois. C'est une histoire du regard. Quand on veut étudier la nudité à travers les âges, il faut précisément l'étudier à travers les arts, c'est-à-dire à travers les modes de perception qui ont été fournis par les artistes. C'est-à-dire que on peut savoir approximativement comment chaque société, chaque époque a perçu la nudité. Il suffit de se référer à ses représentations artistiques. Disons, par représentation artistique, je n'entends pas uniquement l'art de haut vol, enfin, la peinture gothique ou la peinture de la Renaissance. Il se trouve que là, nous connaissons très bien les modèles de perception, mais dans les sociétés archaïques, il suffit d'étudier avec soin les mythes ou la sculpture, et on voit assez bien ce qu'était ce regard. Je crois que la nudité, à cet égard, passe par ce regard qui lui-même est imprégné par des nus. Donc il y a une préséance du nu sur la nudité.
Oui, et en même temps, le regard et la nudité me semblent inséparables, et ils se blessent l'un l'autre.
Je suis cet Actéon de ces chiens déchirés, et l'éclat de mon âme est si bien altéré qu'elle qui me devrait faire vivre me tue. Deux déesses nous ont tramé tout notre sort, mais pour divers sujets nous trouvons même mort. Moi, de ne l'avoir point, et lui, de l'avoir vu. Jean de Sponde.
Il faudrait évoquer un petit peu les fables ou les mythes, justement, qui sont très forts à travers les âges, qui sont ceux de Pinté et les Ménades, de Mélusine, de Suzanne et les Vieillards, de Diane, surprise je ne sais combien de fois dans son bain, de Bethsabée, d'Eurydice. Bon, tout cela fait que la femme, prise ou surprise par la main ou par le regard, est atteinte et blessée ou déchirée, et en même temps, l'homme, le voyeur, ou témoin ou acteur innocent, est lui-même ou déchiré ou aveuglé. Est-ce que la nudité, justement, est toujours liée à une déchirure, une blessure, un interdit ?
Est-il vision plus folle que celle entre les feuillages écartés qui s'offre aux yeux d'Actée ? Rêve-t-il vraiment si fort en plein midi, au son du corps ? Était-ce le hasard ou le désir tâtonnant qui guidait ses pas dans la voie du salut, au sein de la malédiction ? A-t-il vraiment cru la Vierge prenable dans l'imprenable divinité ? Était-ce lui qui donnait ses formes à cette théophanie ? En était-il l'exégète ? Artémis se fut-elle jamais offerte au statuaire si Actéon ne l'eût approchée ? Était-ce un piège de son imagination vénatorienne qu'il voulait tendre à son génie tutélaire ? Mais quelle idée de vouloir surprendre le principe même de sa vocation, comme pour le remettre en cause ? Et faut-il être assez fou pour supposer que la divinité va se détendre, se déshabiller et prendre ses aises dans l'onde, pour croire qu'elle s'ennuie, d'un ennui tellement rare qu'elle vous accordera un exclusif divertissement et vous comblera d'un privilège que vous cueillerez comme une baie sauvage. Actéon en avait-il assez de la chasse ? Devinait-il un sens plus profond de son inutilité ? En un mot, lâcher la proie pour l'ombre. N'était-ce pas le secret de tous les chasseurs dès lors que les biens d'ici-bas sont l'ombre des biens à venir ? Mais si le royaume appartient aux violents, c'est donc qu'Actéon faisait le premier pas sur la voie de la sagesse, quand il s'approcha de ce buisson ardent qu'il écarta comme le premier des voyants en marche, armé et casqué. Pierre Klossowski, Le bain de Diane.
À l'origine, je crois que la nudité, si on n'est pas pourvu d'une sorte de modèle qui fonctionne comme une défense à la limite, n'est-ce pas, et comme une sorte de maîtrise, la nudité est blessante. Il y a quelque chose de menaçant dans la nudité. La meilleure preuve, c'est que dans le mythe édénique, aussitôt après la faute, ils virent qu'ils étaient nus, n'est-ce pas ? Ils se cousirent des pagnes, dit le texte biblique. Ce qui semble bien prouver que si la nudité n'est pas saisie à travers une sorte de filet, captée ou capturée à travers un modèle qui nous est fourni par la société, alors elle est menaçante. Donc je pense que tous ces mythes, qui sont des mythes de voyeurisme, faisaient allusion à Suzanne, bon, c'est évident que les vieillards, bon, cette nudité est létale, n'est-ce pas ? Elle peut blesser. D'où la nécessité pour le regard d'être armé. C'est-à-dire que si le regard... rien n'est plus menaçant qu'une nudité qui survient.
Ah ! Mon Dieu, je vous prie. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment ?
Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées.
Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nue du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas.
Si on est en position de voyeur, si on guette on est tranquille, n'est-ce pas? Mais si, d'un seul coup, la nudité survient, il y a quelque chose d'épouvantable, je crois, quelque chose de menaçant. Il y a toute une série de mythes, d'ailleurs, vous avez fait allusion à quelques-uns d'entre eux, mais dans les sociétés archaïques, il y en a aussi. Hein. La nudité peut aveugler.
Juste, moi je dirais le contraire, il me semble que la nudité peut aveugler dans la mesure où justement on prend la distance du regard, c'est-à-dire on se met en position de voyeur et d'espion. Je pense que la nudité de la femme dans ces mythes ne peut être approchée ou reçue que justement si soi-même on a l'œil nu.
Raymond, ivre de colère, repoussa la table loin de lui, entra dans sa chambre, prit son épée, suspendue au chevet de son lit, la ceignit et s'en alla à l'endroit où il savait bien que Mélusine se retirait tous les samedis. Là, il trouva une solide porte de fer, très épaisse. Jamais auparavant, il n'était allé jusque-là. Aussi, voyant la porte, il tira l'épée. Et avec la pointe, qui était très dure, il tourna et vira jusqu'à ce qu'il ait fait un trou. Il regarda alors à l'intérieur et vit Mélusine dans un grand bassin de marbre avec des escaliers qui descendaient jusqu'au fond. Le bassin avait près de 15 mètres de circonférence et il y avait tout autour des allées d'1,50 m de large. Et là, Mélusine se baignait. Vous allez voir sous quelle forme. L'histoire rapporte ici donc que Raymond tourna et retourna l'épée jusqu'au moment où il eut fait un trou dans la porte par lequel il pouvait tout voir à l'intérieur. Il vit Mélusine dans le bassin. Jusqu'au nombril, elle avait l'apparence d'une femme et elle peignait ses cheveux. À partir du nombril, elle avait une énorme queue de serpent, grosse comme un tonneau pour mettre des harengs, terriblement longue, avec laquelle elle battait l'eau, qu'elle faisait gicler jusqu'à la voûte de la salle. Jean d'Arras, 14e siècle.
Il y a des nudités que l'on maîtrise et il y en a qui sont menaçantes et qui sont dangereuses. Et celles qui sont dangereuses, c'est celles qui surviennent lorsqu'on n'est pas préparé. Il arrive parfois qu'une nudité soit brutale. C'est pourquoi dans le cas du striptease, il y a une sorte de préparation à la nudité. Ça peut être un peu angoissant, mais précisément, on a le temps de se préparer. En revanche, si on vous inflige au premier coup d'œil une nudité, et elle fonctionne un peu comme une agression. Vous n'avez pas le temps peut-être à ce moment-là de mobiliser vos ressources, qui sont des modèles, qui sont des expériences passées, qui sont des souvenirs, c'est pas, des comparaisons éventuelles, et qui sont condensées dans le regard, et à ce moment-là, la nudité peut être agressive. Et parfois, elle peut être... Il y a des nudités qui sont éprouvantes. Enfin, ce n'est pas une question de beauté ou de laideur. Il y a des nudités qui sont massives.
Mais je me demande justement si on peut mobiliser des souvenirs ou des modèles. Est-ce que chaque nudité n'est pas justement particulièrement nouvelle ? Ce n'est pas une expérience traumatisante, si on peut dire, parce que c'est un choc de l'inconnu à chaque fois. Donc en ce sens, c'est lié pour moi à la virginité, qui n'est pas la virginité dont on parle dans certaines religions. Dans ces mythes justement où l'homme surprend ou veut surprendre la femme nue ou la femme au bain, est-ce que ce n'est pas justement une quête de l'origine, du commencement, puisque c'est quand même la femme qui détient la vie. Est-ce que ce n'est pas ça surtout, pas tant sa nudité physique que d'où il vient lui-même, puisque la nudité était, bon, édéniquement au début, au départ.
Je pense que dans ce que vous dites correspond tout à fait à l'expérience que les enfants peuvent faire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le désir de découvrir le corps de la mère. Alors, si on réfère le voyeurisme de l'adulte à ce voyeurisme de l'enfant, c'est possible. Je crois que dans le mythe des vieillards et de Suzanne, il ne s'agit plus de cela. Je veux dire qu'il y a peut-être du voyeurisme d'adulte qui serait la répétition, le déplacement d'un voyeurisme de la petite enfance, c'est-à-dire le désir de connaître même la morphologie de la femme, c'est pas le désir, avec éventuellement des expériences fétichistes lorsqu'on découvre que précisément elle n'a rien à cacher, n'est-ce pas, qu'il n'y a rien, que c'est le vide. Mais dans le cas du voyeurisme le plus courant, qui est une perversion comme une autre, tu vois. Je pense que ça n'est pas lié au désir de découvrir l'origine même. C'est purement et simplement érotique. Alors, on peut l'interpréter, on peut faire de la métaphysique, enfin, mais dans ce cas-là, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une ce qu'on appelle la curiosité sexuelle infantile. Et d'après le contexte, d'ailleurs, biblique, on voit bien qu'il s'agit d'une action érotique. Il y a un voyeurisme qui, je crois, s'explique uniquement par une perversion, mais dont les origines ne sont pas nécessairement infantiles. Ou en tout cas, même si elle renvoie à l'enfance, ça n'est pas pour connaître les organes génitaux de la femme. D'ailleurs, on n'insiste pas du tout sur cette génitalité dans le mythe de Suzanne. Il s'agit donc, il suffit de voir les représentations qui ont été données par le Tintoret, par exemple. Bon, c'est une femme dorée, sa nudité n'est pas exposée, on ne voit même pas d'ailleurs le bas-ventre de Suzanne. Dans la plupart des représentations picturales, on la voit de profil, on la voit de dos, on la voit de trois quarts, mais on n'insiste absolument pas. Ou alors, c'est peut-être encore plus pervers, ce sont les vieillards qui voient ce que nous, spectateurs, nous ne voyons pas. Nous la voyons de dos, de trois quarts, eux la voient de face, c'est possible.
Thank you.
La nudité semble donc toujours impossible à saisir, à toucher, à dire même. Donc en ce sens, ce sera toujours, ou alors elle correspond à la mort. Mélusine s'échappe dès qu'elle est vue. Eurydice, c'est la même chose, disparaît aussi. Bon, c'est comme si on ne pouvait la voir qu'en reflet, en miroir. Et c'est étonnant que, enfin, ou pas étonnant plutôt, que l'emblème de Vénus est justement un miroir.
Oui, puis d'ailleurs dans les vanités, vous savez, toute une représentation du nu au XVe siècle chez Memling et chez tous les flamands. Il y a deux thèmes, il y a Ève, n'est-ce pas, Ève et les vanités, et c'est-à-dire des femmes nues qui se contemplent dans un miroir. Dans le cas d'Eurydice, elle n'est pas nue, vous avez dit, elle, je ne crois pas que ce soit lié à la nudité, je ne crois pas qu'elle soit nue quand il la regarde, enfin en tout cas le mythe ne le précise pas.
Elle devient nue parce qu'il la regarde.
Oui, en tout cas la nudité est un fait de regard, on ne touche pas, la nudité n'est pas faite pour être touchée. Les expériences de nudité, qu'elles soient globales ou qu'elles soient parcellaires, que ce soit par exemple tel organe ou telle partie du corps que l'on veuille voir, ou que ce soit l'ensemble du corps, il s'agit toujours d'un phénomène de regard. On n'imagine pas, dès l'instant qu'on étreint la nudité, je crois que l'expérience n'est plus une expérience de la nudité, c'est une expérience sexuelle, c'est une expérience érotique, mais qui ne renvoie plus à ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire à la véritable expérience qui est celle du voyeurisme. You were En revanche, la nudité dans sa... même parfaite, n'est-ce pas ? Même quand il s'agit de femmes fort belles, ce qui ne veut d'ailleurs rien dire, étant donné que cette beauté est purement conventionnelle, selon les époques ou selon les sociétés, bon, mais cette nudité m'a toujours paru, non pas décevante, mais engagée à un tout autre type d'expérience, c'est-à-dire éventuellement l'étreinte, éventuellement un rapport de sexualité. Au contraire, quand il s'agit de représentation, c'est-à-dire de dédoublement, soit sous la forme d'une photographie, soit sous la forme d'un dessin, soit sous la forme d'un tableau, alors il y a peut-être cet élément d'angoisse auquel on a tout à l'heure fait un peu allusion, qui, à mon avis, n'apparaît guère dans l'expérience réelle, concrète de la nudité, celle qui est touchée. Dès l'instant qu'on touche, c'est autre chose.
Alors moi, je glisse toujours du côté de la métaphysique, et moi, cela me fait penser à la phrase de Chestov qui dit... On ne peut pas dire de Dieu qu'il existe, car en disant Dieu existe, on le perd immédiatement. Alors la nudité n'existe pas, elle serait de l'ordre de l'essence.
Oui, si vous appelez essence sa représentation artistique, c'est-à-dire le fait qu'immédiatement elle est déplacée de sa naturalité vers une réalité qu'on peut appeler littéralement métaphysique, puisqu'il ne s'agit plus d'une nudité physique, palpable, tactile, mais d'une nudité redoublée, n'est-ce pas ?
Ayez horreur des nudités de gorge et de toutes les autres immodesties.
Et à travers ce redoublement de la nudité, qu'on appelle justement le nu, on est en mesure de revenir à la nudité dans ce qu'elle a de physique. Mais c'est pourquoi j'apprécie tout à fait votre locution tout à l'heure, n'est-ce pas, d'une nudité métaphysique. En prenant littéralement, je ne parle pas de métaphysique ou de métaphysique de haut vol, c'est pas transcendantal, mais du métaphysique, c'est-à-dire que nous avons toujours, dans toutes les sociétés, on a installé à côté de la nudité un certain nombre de modèles qui sont l'essence, enfin, de la nudité.
Je mourrai si je ne sais comment elle se couche, nue ou vêtue.
Et en ce sens, la femme, la nudité de la femme me semble beaucoup plus métaphysique, ou même la seule métaphysique, par rapport à la nudité de l'homme. Alors est-ce que c'est par des références à la mystique hindoue, par exemple ? Il me semble qu'une femme nue est de toute façon toujours troublante, indépendamment de sa beauté ou de son déshabillage, beaucoup plus troublante, recéleuse de mystère. Il y a toujours quelque chose d'une horreur sacrée, en effet, devant une nudité féminine, que ne possède une nudité masculine.
Ben pour nous, mais je crois que c'est un fait culturel.
J'aurais voulu être femme pour la beauté, pour pouvoir m'admirer moi-même, me mettre nue, laisser retomber ma chevelure sur mes talons et me mirer dans les ruisseaux.
Il se trouve que les hommes, les nus masculins, fort rares, on le disait en commençant, ces nus suscitent en nous, hommes ou femmes, des réflexes de gêne quand il ne s'agit pas de rire. Enfin, ces nus sont toujours plus ou moins polissons, plus ou moins égrillards. Et les quelques expériences de striptease masculin, s'il y en a, je n'en ai jamais vu. Enfin, je présume que le public doit les recevoir d'une façon tout à fait différente. Il serait très intéressant de faire une expérience, de comparer le regard du même public sur un striptease masculin, un striptease féminin. Je suis convaincu que dans le cas d'un striptease masculin, on aurait des rires, on aurait des gens qui poufferaient dans la salle, et on aurait cette gêne qui est provoquée par le relief du pénis.
Ayez horreur des nudités de gorge et de toutes les autres immodesties.
N'est-ce pas ? C'est-à-dire, j'ai vu des revues, par exemple, destinées, je ne crois pas dire que c'était destiné particulièrement aux femmes, je pense qu'elles étaient davantage destinées aux homosexuels, bon, avec des sexes en érection, on éprouve un sentiment de gêne, tout simplement parce que nous ne sommes pas accoutumés. Il y a une confiscation de la nudité par la femme dans notre société, et je crois que nous sommes actuellement incapables de... Pour l'instant, ça viendra. Il en va de ces photographies comme des films. Il se trouve qu'il y a une pornographie qui est une pornographie essentiellement féminine. Enfin, c'est la femme qui joue le rôle essentiel. Même lorsqu'on assiste à des ébats avec des partenaires masculins, il est incontestable que le public de ces salles, ça j'en ai vu un certain nombre, de ces films, le public attend essentiellement la représentation de la femme. C'est pas, il vient là pour voir des sexes de femmes, le sexe masculin ne fonctionnant que comme un outil ou un moyen. Donc ça, il se trouve que la tradition, le poids de la tradition est tel que nous ne sommes pas prêts, je crois, la majorité d'entre nous du moins, ne sommes pas prêts à accueillir le nu masculin. Alors que dans l'art, il existe. Il existe les statues, il y a des statues, il y a des représentations, nous les tolérons.
Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est lié toujours plus ou moins à des canons esthétiques ? Bon, un homme nu, ce sera toujours en effet culturellement un bel homme nu. Alors que la femme, il me semble, il n'y a pas cette identification ou cette liaison obligatoire avec la beauté. Encore une fois, une femme nue, qu'elle soit vieille ou laide, etc., est toujours, il me semble, troublante.
Oui, mais vous savez, d'ailleurs, on n'a pas toujours pensé de la sorte. Hein. Il fut une époque où on considérait que la femme nue était laide. Les Grecs n'étaient pas loin de le penser à une certaine époque. Au XIXe siècle, il y a de nombreux peintres, enfin Degas en particulier, trouvaient la femme laide, Flaubert aussi.
J'aurais voulu être femme pour la beauté, pour pouvoir m'admirer moi-même, me mettre nue, laisser retomber ma chevelure sur mes talons, et me mirer dans les ruisseaux.
Si on essayait, si on esquissait une histoire de l'art, on verrait que à chaque fois que l'homme a été représenté nu, il était beau. Enfin, il s'agissait d'une certaine perfection, qu'il s'agisse donc de la statuaire ou de la peinture. En revanche, on a de nombreuses représentations de femmes nues, laides. sans aller jusqu'à Rouault ou Degas, il y avait même une sorte de prédilection à une certaine époque pour une certaine nudité répugnante et qui était d'une certaine façon sublimée par la représentation artistique. Alors je suis d'accord avec vous, tout se passe comme si la nudité masculine n'était accueillie dans l'art que sous la condition d'être irréprochable du point de vue, bon, pas de graisse, pas de bourrelet, une musculature impeccable. La nudité féminine serait plus ample, plus vaste que la nudité masculine, qui ne serait qu'un petit canton.
Il me semble, moi, que la nudité, d'une façon générale, marque, quand on voit un corps nu, quand on voit la nudité de quelqu'un, cela marque de toute façon une séparation, une distance, sinon une déchirure. Et il me semble que le photographe est justement celui qui n'est pas nu, celui qui n'a pas l'œil nu, mais au contraire masqué, harnaché d'un appareil. Un appareil proéminent, peut-être menaçant.
Alors est-ce que c'est pas tant qu'il est masqué ou harnaché d'un appareil qu'il est caché derrière.
Pour saisir la nudité, il faut toujours être caché
pour
soi-même.
Pour saisir quoi qu'on... Toute forme de photographie, on est caché derrière un appareil, devant une réalité. Et cet appareil est une protection, plus qu'une arme.
Et protection de quoi ?
De tout. De tout. De toute forme d'agression, des gens, des choses, de l'existence.
C'est celui qui veut voir sans être vu.
Tous les c'est photographes être sont Dieu, des voyeurs. Ça. Non, c'est pas être Dieu, c'est être un voyeur. Tout le monde est voyeur et la photographie permet de s'exprimer à travers ce voyeurisme, dans le bon sens du terme.
Alors maintenant, avec votre expérience personnelle et votre expérience aussi de la mode, enfin c'était un très mauvais terme, pour vous aujourd'hui, est-ce que vous pourriez pas définir, mais... est-ce que vous pouvez saisir la nudité ? Qu'est-ce que vous en savez maintenant ?
Rien.
Est-ce que vous avez appris quelque chose ?
Absolument pas. Absolument pas. J'avais des idées toutes faites et beaucoup plus définitives et précises quand je commençais à faire des images, quand j'avais 16 ans ou 15 ans, que je n'en ai maintenant après 25 ans de professionnalisme, entre guillemets.
C'est-à-dire la nudité est liée aux vêtements ou non ? Elle est liée à la transparence ou non ? Elle est liée à bon, un sexe ou non ?
Non, ça n'a absolument rien à voir avec le sexe. Comme je le disais tout à l'heure, il y a autant de formes de nudité qu'il y a de formes de photographie. Une pomme peut être toute nue, tout d'un coup, dans une certaine lumière. Un visage peut être tout nu s'il exprime tout d'un coup des choses qu'il n'avait pas envie d'exprimer. Je fais des portraits de gens que je considère comme des nus, dans la mesure où je les ai dépouillés. Enfin, je ne les ai pas dépouillés, mais involontairement, ils se sont dépouillés devant l'appareil et ont montré des choses qu'ils ne voulaient pas montrer. Donc c'est ça la véritable nudité, c'est de montrer des choses cachées. Alors socialement, bon, on se promène avec des vêtements et quand on les enlève, on imagine que l'on montre des choses, mais on n'en montre rien du tout. Ce ne sont que des conventions. Pourquoi montre-t-on sa main et ne montre pas son derrière ? On pourrait faire le contraire, mettre des gants toute la journée et montrer son derrière dans la rue. Ça me fait penser à cette scène dans un film de Buñuel qui était formidable, où les gens, il y avait, j'ai oublié le titre du film, c'était un des derniers, où il y avait plein de gens comme ça qui étaient reçus à un dîner, et tous les gens étaient assis comme ça, baissaient le pantalon, étaient assis sur des sièges de toilette, hein, et conversaient entre eux. Et ils allaient s'isoler en fermant la porte à clé pour aller manger un sandwich. Donc il suffit d'inverser les conventions entre la nudité, l'habillement, ou puis les choses qui se font et les choses qui ne se font pas. Et ça, c'est une chose à laquelle je pensais toujours depuis très longtemps, et c'est pour ça que ça m'a paru très amusant dans le film de Buñuel, que les gens dans un restaurant, il y a des centaines de gens assis face à face, côte à côte, qui mangent. Et c'est la chose la plus ignoble, la plus impudique et la plus grossière qui existe, de manger en public. Par contre, ils se cachent pour aller faire pipi, qui est une chose absolument légère et qui n'a rien de...
C'est cela, donc il faudrait parler, il y a la nudité, si on veut dire naturelle, la nudité culturelle, il faudrait peut-être inverser tous ces signes. pourquoi le dos aussi est-il si troublant? Je trouve, personnellement, qu'un nu de dos est beaucoup plus troublant, en effet, qu'un nu de face.
Toute forme d'image qui laisse le maximum de place à l'imagination, c'est-à-dire au bagage que l'on transporte soi-même, comme cela, et que l'on projette sur ce que l'on voit. Donc moins... Mais comment vous expliquer ? Je pense par exemple, à des textes qui sont illustrés, des poèmes qui sont illustrés ou des textes, des nouvelles, ou une adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire connue. À partir du moment où on met des visages précis sur des personnages rêvés, l'imagination travaille beaucoup moins. Peut-être qu'un personnage de dos ou un nu du dos est plus troublant dans la mesure où on imagine ce que peut être le visage qui est sur ce corps. Et lorsqu'on ne voit pas les choses d'une façon précise, peut-être que ça crée cette espèce de décalage qui fait que l'on s'interroge plus et que le personnage devient plus mystérieux.
Alors, est-ce que la nudité rejoint les mystères de l'ombre ? C'est jouer aussi à essayer de piéger la lumière, peut-être ?
Toute forme de photographie est liée à la lumière. Pas seulement la nudité, toutes les photos.
Toute nudité.
Photographie, c'est écriture avec la lumière, étymologiquement.
Oui, alors toute photographie serait une nudité révélée. Alors, pour aller jusqu'au bout de la métaphore.
Oui, si vous voulez, absolument.
Is a man undone.
Un matin, nous apercevions une blanche femme modifiant tout l'ancien horizon. Neige, tu étais nue. Mais, éparpillement du sexe de la nuit, crue et mystérieuse, sous le miroir du bleu et bleu étonnement.
Love is a song.
Pierre-Jean Jouve.
For each man to sing. The man on the left is a prize unwon. A candle unlit. And a song unsung. Believing that love is a dreamer's dream. The man on the left. The me in between. Lady Magdalene.
I can hear your distant trumpet calling from the morning mountain, singing to the passing river, take me home. Show me peaceful days before my youth has gone.
Je fais des odalisques pour faire du nu. Mais comment faire du nu sans qu'il soit factice? Matisse.
Toujours j'ai le modèle vivant sous les yeux. Non seulement je l'étudie au moment où j'exécute une œuvre, mais sans cesse autour de moi, dans mon atelier, je fais circuler des modèles nus. Hommes et femmes, pour peupler mon esprit de leurs formes et de leurs mouvements. Ainsi, le nu, qui, pour mes contemporains, est une vision exceptionnelle, puisque les artistes eux-mêmes ne l'observent que chez le modèle qu'ils copient, m'est devenu aussi familier qu'aux artistes grecs, qui pouvaient le contempler presque constamment dans les exercices de la palestre. Notez que jamais je n'impose une attitude à mes modèles. Il me répugnerait trop de contraindre la nature de la fausser en lui commandant. Non, quand l'un d'eux, en évoluant près de moi, m'intéresse, je lui demande de s'y maintenir quelque temps et je m'empresse de modeler une ébauche d'après lui. Aujourd'hui, vers la fin de ma carrière, je me contente de laisser le modèle évoluer à sa guise. Toute attitude imposée n'est pas naturelle et elle est utile pour celui qui l'étudie. C'est remplacer l'infini par le fini. Rodin.
Le peintre doit nommer. Si je fais un nu, on doit penser, c'est un nu, pas celui de Madame Machin.
Picasso.
Le vêtement joue deux rôles contradictoires, c'est-à-dire, quelquefois, il cache volontairement quelque chose pour exciter l'imagination. Et quelquefois, il le découvre également pour exciter le désir. C'est-à-dire que, comme il est vrai d'ailleurs dans tout le domaine érotique, les deux contraires peuvent être porteurs exactement du même message. Il peut être, par exemple, pour un homme qui a la sensualité du sous-féminin, par exemple, il peut être très, très érotique, très sensuel de penser que la femme avec laquelle il se trouve est nue sous sa robe. Mais il peut être aussi très excitant de penser que sous sa robe, elle a des porte-jartelles, elle a des culottes, des falbalas, des combinaisons, etc. C'est-à-dire que dans le costume, comme dans l'érotisme, les contraires ont une même valeur. Par exemple, il y a une période du Moyen-Âge où c'est le ventre qui est mis en valeur. Il y a une période où c'est le bras. Il y a l'utilisation pour le bras des transparents. Justement, où, alors, car il y a le problème du transparent, c'est-à-dire du nu vêtu, qui est très, très important dans l'histoire du vêtement occidental et qui, par exemple, en ce moment, s'y revient, notamment, enfin, pour les blouses, les corsages des femmes, il y a énormément de transparents. Je suis l'autre jour à une collection, à peu près les trois quarts des mannequins avaient le buste transparent et sans soutien-gorge, c'est-à-dire que ce qui évidemment n'aurait pas été faisable il y a une vingtaine d'années. Et on peut se demander jusqu'où peut aller d'ailleurs ce culte du transparent, et s'il peut descendre au-dessous de la taille, ce qui est extrêmement possible, parce qu'il y a un culte du transparent qui est un culte de la sensualité, du cacher et du montrer à la fois.
Toutes les femmes qui sont ici, et même les autres aussi, n'ont qu'un but, c'est de s'habiller pour vous émoustiller. Et pourtant, messieurs, à quoi cela sert-il? C'est futile, inutile, pas besoin de robe, de chapeau, ni de bas-toi. Oui, cela va toi. Oh, les hommes ont le béguin, les femmes nues, tout de suite. Oh, qu'ils voient dans les tableaux de revue, tout de suite. Oh, pour ces petits nus, joue plus. Oh, pour ces chichis pointus. alors on met plein la vue tout de suite. Que de désirs saugrenus et que des lambis fordus. Ah, comme ça les remue toutes les femmes. Tout de suite.
Je mourrai si je ne sais comment elle se couche, nue ou vêtue.
Et depuis le XIIe siècle, le Moyen-Âge, que vous appelez Nouvel Âge, parallèlement à ce qu'on appelait l'invention de l'amour, le vêtement, à ce moment-là, prend un rôle très important de différenciation sexuelle, oui. Du moins dans l'apparence.
On peut dire que, absolument, constamment, depuis la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, la garde-robe masculine et féminine n'a pas cessé de se distinguer. Qu'on pourrait en faire l'histoire détaillée 20 ans, si vous voulez, ce qui était commun aux deux sexes s'est différencié. Cette chose-là devient propre de la femme, cette autre devient propre de l'homme. À la fin du XVIIIe, l'homme avait encore le droit de se poudrer et de se farder. Il avait des cheveux, il avait une perruque, il avait des cheveux longs, il portait des bijoux, il avait des talons hauts, enfin, il employait les couleurs, il usait de toutes les couleurs de la femme et de tous les tissus, de tous les taffetas, toutes les soies, toutes les dentelles aussi d'une femme. Bon, ceci pour la fin du 18e et au début du 19e, l'homme va renoncer à la couleur, va renoncer aux tissus extrêmement chamarrés, etc., va se couper les cheveux très courts, plus question de les poudrer ni de se farder. Il perd les derniers éléments communs qu'il avait avec la femme. N'oublions pas que tout cela part du 12e, où l'homme portait encore la robe, et si quelque chose doit devenir distinctif dans cette séparation du vêtement, c'est aussi que l'homme est en costume serré, fermé, dans un système clos, alors que la femme est dans un système ouvert. Et cette séparation va être toujours plus marqué au cours des siècles. Et ce sera seulement à partir de 1905 qu'il y a un contre-mouvement, alors qu'il s'est produit. La femme a adopté le pyjama, puis le culotte de cheval, le pyjama de plage, puis elle s'est apporté les pantalons de ski, puis des pantalons en ville. Et on aurait pu penser, il y a une quinzaine d'années, qu'on allait vers l'unisexe. Et puis depuis, la vieille tendance, cette vieille tendance secrète mais constante que notre société a depuis le XIIIe siècle, s'est manifestée de nouveau. Et alors qu'il y a eu une époque où dans Paris on rencontrait 10 filles en pantalon pour 2 filles ou une en jupe, maintenant, au contraire, il y a très souvent, il y a une très grosse majorité de jupes et de robes sur les pantalons, et les dessous ont une tendance très nette à se réaffirmer de nouveau, de sorte que le vieux mouvement, enfin le mouvement du 12e, après une défaillance, a repris vie. Simplement, la femme a acquis le pouvoir de pouvoir s'habiller en système clos ou en système fermé selon son caprice. La nudité correspond aussi un peu à ce qu'est l'acte sexuel. Et c'est ce qu'a voulu représenter la mode avec la robe système ouvert qui correspond à la morphologie de la femme qui a également un corps qui est fait pour s'ouvrir.
J'aurais voulu être femme pour la beauté, pour pouvoir m'admirer moi-même, me mettre nue, laisser retomber ma chevelure sur mes talons et me mirer dans les ruisseaux.
Je suis nue, j'en ai conscience et je te remercie parce que la fin de la folie est imprévisible.
Penses-tu que je boutonnerais sans défaillance prématurée sur ma poitrine le gilet pesant et tremblant de tes seins?
Si devant la femme nue, on ne découvre pas dans son être le plus profond la même émotion terrifiante qu'on ressent devant la révélation du mystère cosmique, il n'y a pas rite, il n'y a qu'un acte profane.
La plus prudente vierge est encore prodigue de sa beauté. Si, dévoile à la lune. Shakespeare.
Ainsi, l'amour l'avait-il initié au mystère de la nudité, de la sienne et de l'autre, de la nudité ensemble, sans être en posture d'être vu, et au-delà de la nudité, à la lucidité, ce sentiment que deux corps, même s'ils se lovent et s'enlacent, et supportent la répétition, restent malgré tout séparés, ce sentiment d'une frontière qui peut mener au spirituel, à la fin. Sentiment de la fin, qu'il avait eu très tôt, enfant. Sentiment de la fin des choses et que toutes les fins sont liées. Il arrive un jour où, passé dans l'ultra-temps, contemplant son propre désir, on l'abolit. Dominique de Roux.
On peut se demander, sans dire que la femme est un objet sexuel ou une proie sexuelle, on se demande quand même pourquoi est-ce toujours la femme qu'on déshabille ou qui se déshabille. Il n'y a pas de striptease masculin, ce que je sache.
Non, parce que je crois que ça n'intéresserait pas les femmes. Il m'est arrivé de me trouver avec des femmes qu'on aperçoive un homme nu se rhabillant dans une calanque, etc. Elles ne regardent pas. Alors que si le même incident heureux arrive, mais que c'est une femme qui est en train de sortir de l'eau ou de se réveiller, tout homme normal regarde. Il y a donc certainement une grande différence de disposition d'esprit et le désir de la femme et le désir de l'homme ne fonctionnent pas de la même manière. D'ailleurs, si on veut même être précis, quand l'homme fait l'amour, ce qui le caractérise biologiquement disparaît à l'intérieur de la femme, alors que la femme reste entièrement elle-même à ce moment-là.
Et si on pense aux matières utilisées du vêtement, est-ce que les matières du vêtement ne sont pas là pour évoquer aussi les matières mêmes de la peau, du grain de peau ou de l'intérieur de la chair ? On pense surtout à cette couleur qui n'en est pas une, qui est la transparence, et ce côté très troublant et fascinant du bas. On pourrait dire couleur chair, mais alors quelle est la couleur de la chair ?
Le bas s'est mis à vouloir imiter la chair, à vouloir donner l'illusion que la jambe était nue, à peu près vers 1921. Jusque-là, les bas que portaient les femmes étaient des bas de couleur qui tendaient à être un vêtement, mais pas à donner l'illusion de la nudité. L'illusion de la nudité commence en fin 1919, à peu près. Et justement, à une époque où on voit davantage le bas, puisque les robes sont en train de rétrécir rapidement. Et c'est donc l'illusion de la nudité grâce au bas. Une femme montrera dans une soirée, elle peut montrer ses bras, elle peut montrer sa gorge, elle peut être plus ou moins décolletée, etc. Elle va montrer beaucoup plus d'elle-même qu'un homme. Ça, c'est tout à fait constant dans l'histoire du vêtement occidental.
Je mourrai si je ne sais comment elle se couche, nue ou vêtue.
Le serpent m'a trompé. Il disait que je connaîtrais le bien et le mal. Oh malheur, je bus dans mes paumes le plaisir. Ce que je n'ai pas bu de cette eau me ravage. Le serpent t'a trompé. Nu et nu, me voici. Contemple ma misère. On t'appellera la femme trompée. On te haïra dans l'état de nature. On s'avancera sur toi pour te fouler. Le serpent t'a trompé. Le serpent t'a blessé. Et toujours, nous refoulerons en nous la blessure. Pierre Jean Jouve, Le paradis perdu.
Take us to your soul, for we have wandered far.
À ces fameux collants qui sont d'une invention très récente, les collants pour la femme, les collants transparents. Alors, est-ce que vous les interprétez, vous, comme un pantalon moulant, comme un système fermé d'incarcération ?
Oui.
C'était une façon, enfin, que l'homme avait eu d'embrigader ou d'entraver la femme.
Je ne sais pas s'il faut attribuer cette intention à l'homme. À la vérité, il y a eu un phénomène qui a un peu rendu nécessaire le collant, c'est la mini. Car avec une mini, il était difficile d'avoir un porte-jartel qui se serait vu constamment. Et or, dans la mission du porte-jartel, il peut être entrevu par un mouvement de la jupe, il peut être très troublant quand la femme se déshabille ou est déshabillée, il peut être très troublant de le découvrir, mais le voir constamment, d'ailleurs, lui aurait fait perdre tout charme. Or, si le porte-jartel avait subsisté avec la mini, avec la mini, il fallait où les chaussettes et les cuisses nues, et en hiver, ce n'était pas très possible, ou bien le collant. Mais alors, ce n'est pas le collant, je ne crois pas du tout que c'est l'homme qui a imposé le collant. À l'époque, il y a eu beaucoup de résistance masculine au collant. Il y en a encore aujourd'hui, et même, chose très curieuse, chez des jeunes qui n'ont pas connu l'époque du porte-jartel. Et il y a un retour au porte-jartel qui tient justement, je crois, au fait que l'homme souffre de sentir sous la robe la femme enfermée dans un système clos, comme lui, comme si elle avait un pantalon. Et que beaucoup de femmes ont éprouvé la même sensation, ont partagé cette sensation avec leur partenaire masculin, c'est ce qui fait ce retour au porte-jartel, qui est d'ailleurs très net, qui devait revenir, car il était très net que dans des magazines comme Playboy, lui, etc., pendant même la période où il n'était plus question de trouver un porte-jartel dans une devanture, les photographies ou les illustrations comportaient toujours des porte-jartels ou des jartières. Et il y a donc une tendance permanente qui ne s'est pas démentie et qui maintenant revient dans les faits parce qu'elle redevient dans la mode.
Doit être irritant parce que c'est justement à la fois ce qui attise, enfin c'est ça attise et ça entrave le désir masculin.
Ça coupe le rêve. Parce que une femme en jupe, si elle a un porte-jartel, on sait qu'elle a une zone de nudité d'une partie de la cuisse. Qu'elle n'est pas enfermée, tandis que dans un collant, la femme est enfermée de l'orteil à la taille.
Tableau de revue, tout nu, sans
la leçon que je me sens y être femme nue.
Le dessous, dont on parle beaucoup, les dessous féminins expriment le mieux la nudité. Est-ce que c'est vraiment pour des raisons de contact, je veux dire, parce que c'est ce qui touche le plus près le corps?
C'est ce qui touche le plus près au corps, c'est ce que l'on ne voit, l'homme ne voit que quand il est arrivé à un certain degré d'intimité avec sa partenaire. Et une partie de ces dessous peuvent être conservés même pendant l'acte amoureux et en être un piment. Et donc c'est une... C'est un secret, le dessous, un secret dont toujours les femmes ont laissé entrevoir une légère parcelle, apercevoir le bout d'un jupon. C'est classique dans la littérature aussi bien du 16e que du 20e. Selon les époques, elles ont laissé entrevoir des bas. Et à l'époque où elles avaient des petites bottines et où leur robe descendait absolument jusqu'aux extrémités de leurs souliers, certains mouvements dévoilaient la bottine, et la bottine a pris à ce moment-là une valeur érotique. Elle est devenue, s'est intégrée à un certain fétichisme.
Je t'ai vue et je fus conquise. Toi aussi, tu m'as vu, et je t'ai recueilli. Qui voit est prise, qui est prise voit. J'ignore où tu es.
J'enverrai des anges noirs de mon royaume au-delà de la terre. Ils connaissent l'art de se déguiser en prince ou en mendiant. Si tu vois quelqu'un que tu soupçonnes de bonnes intentions, celle qui chez vous s'appelle mauvaise, c'est de ma part qu'il vient pour te chercher. Moi qui te l'aurai envoyé, je ne te veux rien. Rien que te voir dans ton miroir, je veux me mirer en toi. Je ne te toucherai pas. Mais toi, immaculée, tu me comprendras. Je t'aimerai avec mes yeux, je rayonnerai sur toi, afin que ta pureté paraisse plus belle encore. Sache-le, je suis le maître d'un grand royaume. Tu seras servi par des étoiles en habit de cour, sans qu'obscur tu deviennes plus obscur encore. Je me cacherai de toi sur une grande montagne, et je te défendrai comme l'épervier sa colombe. Mais tu ne me verras jamais, car je t'ai vu, et je ne te verrai jamais, car tu m'as vu, seulement dans le miroir de l'eau, dans l'eau du miroir. C'est pourquoi tu te languiras de moi, et languir est une soif. Mais moi qui ai soif, je te donnerai de l'eau, et plus jamais tu ne seras prisonnière comme tu le fus de la pureté de ton visage.
Gunnar et Kellof.
J'aurais voulu être femme pour la beauté, pour pouvoir m'admirer moi-même, me mettre nu, laisser retomber ma chevelure sur mes talons et me mirer dans les ruisseaux. Flaubert.
And sometimes wild and free. Love is a traveler on the river.
La plus prudente vierge est encore prodigue de sa beauté. Si elle la dévoile à la lune. Shakespeare.
Si devant la femme nue, on ne découvre pas dans son être le plus profond la même émotion terrifiante qu'on ressent devant la révélation du mystère cosmique, il n'y a pas rite, il n'y a qu'un acte profane. Mircea Eliade.
Jacqueline Kellen, Michel Abgral, La Reine est nue, avec Jacques Laurent, Alain Roger et Jean Loucif. Texte lu par Daniel Mesguich, André Dagonet, Jacqueline Taous, Guy Chapelier et Virginie Biédou. Nuit magnétique, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 septembre 1980.